Bonjour à tous.
Puisque tu ne veux pas partir, c'est moi qui m'en vais. J'irai vivre seule à l'hôtel, je pense. Adieu, Camille.
Sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Problématique du jour, personnalité et essais en tout genre, une autre manière de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. L'équipe des Nouveaux Chemins, c'est aussi la philosophie en train de se faire. Marianne Chassor, Colomba Grossi, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy et bien sûr Adèle Vendrette. Avec Mydia Portis-Guérin à la réalisation, Georges Kless à la lecture des textes et à la prise de son, Théo Gomard. Vivre est ce qui nous importe le plus, mais aussi résiste le plus à la pensée. Car c'est en quoi nous nous trouvons toujours déjà engagés dès la naissance. Sur quoi donc nous sommes sans distance et sans perspective. Mais c'est à quoi, en même temps, nous ne cessons d'aspirer, comme si nous en demeurions toujours éloignés. Car que pourrait-on souhaiter d'autre part que de vivre? Nous sommes à la fois sans recul à son égard, puisque c'est en quoi nous découvrons dès l'abord impliqués. En même temps que c'est ce qui ne cesse de nous échapper. Ce verbe est sans en deçà ni au-delà possible. Il dit à la fois la condition de toutes les conditions et le comble de toutes nos aspirations, vivre enfin. Or, comment cesser de se laisser balloter sur le glacis, l'assis de cette contradiction, à la surface comme dans l'entrelacement de ce qui, faute de se laisser concevoir, ne deviendra plus que de lieu commun, ne deviendra que banalité, suivant lesquelles la pensée ne fait que filer toujours. Touchons à cet immédiat, vivre, mais auquel il faut accéder, comment entrer dans la pensée? Ces questions, ce sont le philosophe helléniste et sinologue François Julien qui les pose dès l'ouverture de son livre « Vivre en existant, une nouvelle éthique » qui vient de paraître chez Gallimard. Ces questions, ce sont celles que nous allons donc lui poser à notre tour dès maintenant, à l'occasion de la parution de cet ouvrage, mais aussi de la parution de Près d'elle, présence opaque, présence intime chez Galilée. François Julien, merci d'être ici et bienvenue à vous.
Bonjour.
Le serviteur des onze arriva et se tenant debout devant Socrate, à présent, car tu sais bien ce que je suis venu t'annoncer, adieu. Et essaie de supporter aussi facilement que tu pourras l'inévitable. Puis, les larmes aux yeux, il se détourna et s'éloigna. Socrate leva son regard vers lui. « À toi aussi, dit-il, adieu, et nous, nous ferons comme tu dis. » Et se tournant vers nous, « Que de courtoisie chez cet homme. Pendant tout le temps que j'ai passé ici, il venait me voir et parfois nous parlions ensemble. C'était le plus aimable des hommes. Et maintenant, avec quelle générosité il me pleure. Allons, Criton, obéissons-lui, et qu'on apporte le poison s'il est broyé, sinon que l'homme qui en est chargé le fasse. Alors Criton, mais Socrate, le soleil est toujours sur les montagnes, il n'est pas encore couché, il me semble. De plus, je sais que d'autres ont bu le poison fort longtemps après qu'on leur eut enjoint de le faire, et qu'ils ont d'abord bien mangé et bien bu. Certains même ont eu des rapports avec les personnes dont ils avaient envie. Ne te presse donc pas, il y a encore le temps. » Socrate répondit, « Il est au naturel, Criton, que ceux dont tu parles agissent de cette façon. Ils croient sûrement y gagner quelque chose. Quant à moi, il est naturel que je ne fasse rien de semblable, car je ne crois pas avoir rien à gagner en retardant le moment de boire, sinon me couvrir de ridicule à mes propres yeux en me cramponnant à la vie et en l'économisant alors qu'il n'en reste déjà plus. C'est assez maintenant, dit-il. Fais ce que je te dis, rien d'autre. À peine avait-il dit ces mots qu'il porta la coupe à ses lèvres et tout tranquillement, tout facilement, il la vida.
François Julien, on vient d'entendre, interprété par Georges Clès, un extrait du dialogue de Platon, Le Phédon. C'est un texte que vous citez au début de votre ouvrage, Vivre en existant, dans une première partie qui est consacrée à ce phénomène que vous appelez l'adhérence, c'est-à-dire ce phénomène, comme on l'a entendu dans le texte, d'être cramponné à la vie. Mais pourtant, dans le texte que l'on entend, Socrate n'est plus du tout cramponné à la vie. On dirait qu'en fait, il fait intervenir sa pensée et que de cette manière-là, il se détachait de la vie. Est-ce qu'on pourrait déjà dire que penser et vivre sont des phénomènes opposés ?
Oui, dans ce texte de Platon, ce qu'on voit apparaître, c'est dans ce beau texte, cette belle page de la mort de Socrate, c'est ce qui fait apparaître la conscience, à savoir la capacité de désadhérer. D'ailleurs, la traduction « cramponné » n'est pas juste. Le grec, c'est « glycomenos », c'est être collé à, englué, adhéré à. Et j'essaie de dire qu'il est au fond le concept qui serait peut-être originaire au premier de notre rapport au vital, l'adhérence. Et justement, ce que montre Socrate, c'est que là, il désadhère. Et c'est par là qu'il manifeste, eh bien, l'aspiration de la conscience, qui donc désadhère de cet englouement dans le vital dans lequel nous sommes portés comme ça, portés à rester, pour faire émerger une exigence de désadhérence, donc de décoller de cet englouement dans le vital, pour faire advenir la conscience. Et c'est ce qu'il met ici en valeur.
Mais il va mourir, Socrate. Or, on peut essayer peut-être de vivre et d'exister en même temps. C'est ce que vous tentez de démontrer dans votre ouvrage. C'est une nouvelle éthique dont vous parlez. L'exemple de Socrate est peut-être là plus ambigu qu'il n'y paraît, parce que à partir du moment où sa conscience intervient, il boit la coupe et il meurt. Comment on peut à la fois décoller du vital tout en continuant à vivre ?
Oui, Socrate n'a pas choisi de mourir.
Non, mais
il répond, et c'est une condamnation. La figure lui apporte, il faudra qu'il la boit.
Mais Criton lui propose de retarder ce moment.
Oui, mais de peu de temps. Mais ce que Socrate veut dire là, je crois, c'est que justement, ce qui fait l'activité de la pensée, c'est de désadhérer, donc de se retirer de cette adhérence ou de cet englouement dans le vital. Et c'est ça, disons, qui est l'exigence, l'aspiration de la pensée. Donc je crois que j'essaie de dire au fond, en élaborant une philosophie de l'existence, proposer des concepts qui décollent eux-mêmes le moins possible l'expérience. Et adhérence me paraît dire peut-être ce qu'il y a de adhérence qui n'est pas adhésion, ce qui serait ce concept premier, qui n'est pas satisfaction, qui n'est pas investissement, qui sera en amont d'eux, à savoir nous sommes adhérents au vital, et justement exister, si on entend bien le terme dans son étymologie, existere, ce que dit le latin, se tenir hors, c'est justement arriver à se détacher de cet englouement, de cette adhérence dans le vital, pour justement, s'en détachant, faire émerger autre chose. Et je crois qu'exister, c'est justement cette capacité de, non pas se détacher du vivre, mais disons, d'arriver à, étant dans le monde, étant dans cette adhérence vitale, eh bien, pouvoir en émerger. Émerger, exister, se tenir hors, c'est-à-dire de quoi ?
C'est votre démarche dans cet ouvrage, c'est aussi votre qui s'inscrit dans la continuité de vos anciens travaux. Tout l'enjeu de cet ouvrage me semble être effectivement de se poser la question comment à la fois se tenir hors et en même temps dans le monde. Oui. Est-ce qu'on trouve une réponse en lisant votre livre ?
Je vois que vous l'avez dit, c'est une contradiction. Comment articuler l'immanence et l'existence ? Immanence, prenons les termes latins, rester dans le monde. Immanence, en même temps existant, en même temps que je suis dans ce monde, puisqu'il n'y a pas d'autre monde, puisque je ne cherche pas un ailleurs qui serait un alibi, tout en me maintenant dans le monde, en même temps exister, me tenir hors du monde. C'est-à-dire ne pas me laisser intégrer, inclure dans la limite de ce monde. C'est ce que nous vivons tous les jours. Une rencontre, c'est ça. Une rencontre, c'est justement c'est cette émergence d'un dehors qui me déborde, qui fait que je ne suis plus clos, enclos, englué, pour prendre ce terme premier, terme de Socrate, dans le dedans. Et je crois que c'est au fond, il y a bien contradiction, mais cette contradiction est justement la contradiction à penser parce que c'est elle qui nous donne notre statut.
Mais alors,
immanent en même temps qu'existant. Alors la question, je crois, de la philosophie, c'est comment penser ce hors pour qu'il ne soit pas un nouveau dent, pour que ce hors du se tenir hors ne soit pas un nouveau dent, qui soit un dent du paradis, qui soit un dent de l'au-delà, qui soit un dent qui relocalise, réintègre ce hors.
Déjà, ça commence peut-être penser, repenser ou approcher autrement en fait ces concepts que vous dites au ras du vécu. Passe peut-être déjà par un travail sur les mots. Votre livre s'intitule Vivre en existant. Il y a le participe présent d'existant. Il y a vivre qui est un infinitif. Et vous ne présentez pas ça comme une philosophie de la vie, par exemple.
Non, parce que la vie est déjà un terme abstrait qui a déjà décollé. Vivre. Parce que c'est le verbe le plus intensif, et en même temps, je l'ai dit, c'est, vous le citez en commençant, le verbe dans lequel nous sommes, qui est à la fois la condition de toutes les conditions, être en vie, et en même temps, l'aspiration ultime de toute existence, arriver à vivre enfin, le fameux vivre enfin.
Qu'on entend partout.
Oui, on entend partout. Et donc, je crois que la difficulté, c'est justement de... essayer de produire une philosophie du vivre, puisque la philosophie, qu'est-ce qui caractérise le vivre au fond, c'est que le vivre est ambigu et singulier. Or, la philosophie, parce qu'elle est une pensée de l'être dans sa tradition grecque, procède par abstraction, donc perd le singulier, et procède par détermination, donc perd l'ambigu. Donc la philosophie, comme pensée de l'être, a laissé tomber, si j'ose dire, a enfoui la pensée du vivre. Et je crois que, alors, traditionnellement, c'est le religieux qui avait récupéré la pensée du vivre. Je suis la voie, la vérité, la vie. Enfin, c'est le religieux qui a récupéré ce que la philosophie, par sa traction, par sa détermination exclusive, avait conçu. Dans le retrait du religieux aujourd'hui, je crois qu'il faut penser ce que peut être une philosophie du vivre, c'est-à-dire remettre vivre comme objet premier de la philosophie. Sinon, c'est ce qu'on constate tous les jours dans ce qu'on appelle le développement personnel, le marché du bonheur, enfin tout ce qui aujourd'hui encombre les librairies. Donc je pense qu'il est requis de la philosophie aujourd'hui de penser une philosophie du vivre et de la promouvoir, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, comme philosophie de l'existence. À partir de la contradiction que vous avez dite, nous sommes immanents, existants, c'est dans cette tension que vivre peut se déployer.
Comment proposer une philosophie du vivre sans que ne s'évanouisse tout de suite ce vivre, sans qu'on, parce qu'on l'objective, parce qu'on le met à distance, parce qu'on le considère comme un objet de réflexion, et justement de réflexion, on en perde finalement, on ne perde pas cette immanence. Comment faire en fait pour à la fois réfléchir sur le vivre sans lui faire, voilà, sans lui faire perdre sa fugacité, son immanence?
C'est l'exigence même dans laquelle est mise aujourd'hui la philosophie, c'est de produire une Lebensphilosophie, comme disent les Allemands, sans que la conceptualisation, par son abstraction, perde ce qui est justement le propre du vivre. Donc je crois qu'il y a un effort à faire pour penser une conceptualité, enfin des concepts, puisqu'il faut des concepts, la philosophie produit des concepts, c'est son outil. Donc, philosopher, c'est produire des concepts, mais comment produire des concepts qui ne perdent pas cette émergence même du vivre dans son caractère, je dis bien, singulier et ambigu. Alors que le propre du concept, traditionnellement, c'est par détermination et par abstraction de délaisser et le singulier et l'ambigu. Donc là, il y a aussi une contradiction qui est une exigence. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'essaie de partir de termes dont je fais des concepts, mais qui au départ n'en sont pas. Adhérence, enlisement, résistance,
basculement.
Donc je prends des termes qui sont des termes familiers, des termes courants, des termes concrets, pour les porter au concept, pour justement faire travailler en eux une capacité d'abstraction qui ne perde pas ce singulier ou, disons, cette ambiguïté essentielle au vivre.
Vous êtes marié depuis 10 ans, c'est ça?
Nous venons de fêter notre 10e anniversaire.
Il n'y a pas Anguille sous roche?
Ça, l'avenir nous le dira.
Mais c'est difficile à prévoir.
Vous savez, on partage tout, les corvées aussi.
Tu vois, c'est ça, Katharina. Ce qui nous manque, c'est de n'avoir pas partagé les corvées. Le ménage. Mes enfants, je vous annonce une grande nouvelle. La semaine prochaine, je vais appeler notre chère Marianne au bureau pour qu'elle règle notre divorce.
L'ennui avec mon époux, c'est que lorsqu'il dessoulera, il se ravisera. À jeun, la machine à calculer se met en route, hein? Et voilà ce qu'il en sortira. Je ne refuse pas de divorcer, seulement Katharina devra me laisser le montant de notre compte en Suisse. Excusez-moi, je suis impardonnable de vous parler de mes affaires privées d'une manière aussi terre-à-terre. Mais lorsque Peter ramène notre divorce sur le tapis, je devine à quel point il a bu. Et je préfère le contrer avant les insultes.
Ça fait une éternité que je le dis, et c'est vrai. Katharina est un homme d'affaires, un PDG. Non, j'entends par là qu'elle porte la culotte en affaires. C'est un homme. Un homme qui se double d'une artiste talentueuse. Et puis elle a un quotient intellectuel, chiffre exact, je ne sais plus, c'est fabuleux. Elle a un minois charmant et un caractère en or. C'est une marchandise impeccable. Pourquoi ce monstre de perfection est-il parfaitement incapable de m'ouvrir ses cuisses, je me le demande bien.
Lettre à l'autre. Comment empêcher que la présence, en s'instaurant, s'installe ? Qu'elle s'enlise de ce qu'elle se réalise et s'abîme dans la durée. Les amants en sont menacés. Je proposerai de penser cet être près de la présence, non pas dans les termes de l'être, donc de la détermination, mais dans les termes de l'antre, laissant passer indéfiniment l'intime entre les sujets. De sorte que la présence ne sombre pas dans la fatalité de l'être là, qui s'étalant dans son là, se désactive et désapparaît. Car n'est-ce pas ce qui d'abord importe pour vivre à deux et exister ? François Julien, on a entendu un extrait de Scène de la vie conjugale, le film de Ingmar Bergman, scène assez effroyable d'un couple qui se déchire. Il illustre ce que vous développez à la fois dans le livre Vivre en existant, mais aussi dans le livre dont j'ai lu le tout début, qui s'appelle Près d'elle, Présence opaque, présence intime, qui est paru aux éditions Galilée. Donc, vous y décrivez cet enlisement qui a lieu dans le couple, à savoir ce paradoxe qui fait que l'autre, plus il est présent, moins on le voit.
C'est la même question précédemment, c'est la question de l'être. Présent, c'est être prêt, prééns. Donc c'est le verbe être qui est de nouveau là, convoqué. Et avec ce qui est effectivement le problème de l'être, c'est que l'être n'est être qu'en étant présent, mais qu'en étant présent, il se désactive. Alors, ce qu'on voit entendre dans le film de Bergman, c'est que il est toujours question des sujets, elle et lui, donc des accusations de l'un vers l'autre. Donc on a réduit cela à un phénomène moral et psychologique, un tel face à un tel. En fait, la question, il faut la prendre en amont, dans sa contradiction première, qui est celle de l'être. L'être ne peut se manifester en être qu'en étant présent, par homme, présent, étant présent. Et en même temps, devenant présent, il s'instaure, s'instaurant, il s'installe, et donc, il se désactive comme être. Au fond, la présence s'enlise. C'est un concept de mon premier livre sur vivre en existant. L'enlisement, toute présence s'enlise. Et la question qui se pose, c'est justement de penser à la stratégie de désenlisement de la présence. Comment pouvoir sortir de cet être-être-là qui, non pas disparaît, mais désapparaît. Désapparaître, n'est-ce pas ? Ce que disait Lucrèce du ciel qu'on a sous les yeux, n'est-ce pas ? Comme on le voit tous les jours devant nous, présent devant nous, on ne le voit plus. On est plus sensible à cette merveille du ciel, des étoiles, de la lumière, enfin tout ce qu'on sait de cela, mais qu'on ne voit plus. Donc la question c'est, comment la présence, en se réalisant, se perd ? Comment, disons, en s'imposant, elle se désactive, elle perd son caractère effectif, elle devient opaque. C'est-à-dire qu'elle laisse plus passer la présence. L'imprésence, en s'installant, ne laisse plus passer la présence, produit l'enlisement. Et je crois que c'est l'expérience effectivement de tout couple, n'est-ce pas ? Comment la rencontre, devenant relation, se perd comme rencontre ? Et là, on retrouve la question de l'autre, c'est-à-dire du dehors. Comment donc faire que dans la présence, quelque chose du dehors se manifeste ? Et je crois que c'est la pensée même de l'intime, où dans la relation qui n'est plus, disons, la présence opaque, qui devient intime, eh bien je suis débordé par l'autre. Être débordé par l'autre, c'est la façon de pouvoir maintenir l'autre activement présent et non plus intégré dans ce champ d'aliénation de l'autre qui est la façon de le faire rentrer dans mon horizon à moi.
Mais n'est-ce pas impossible finalement de lutter contre l'enlisement, de lutter contre l'englument finalement de la vie ? C'est-à-dire on ne peut pas, c'est très difficile en fait d'être toujours sur un fil, d'être toujours à la fois entre le vivre et l'être. Dans les deux cas, on est soit en surplomb avec l'être, soit englué dans le vivre. Le fait d'exister dans le couple, c'est-à-dire le fait d'être hors de soi grâce à l'autre tout en étant dans le couple, semble un procédé, semble quelque chose peut-être de possible au début, mais effectivement d'intenable sur la durée et même pour n'importe quelle relation.
C'est l'exigence qui justement à promouvoir, c'est de se maintenir à ce stade d'émergence ou d'essor, non pas d'étalement. Mais je crois que vous l'avez bien dit, entre être et vivre, les deux termes sont donc rivaux. L'être est à l'aise, si j'ose dire, par l'abstraction et par la détermination. Le vivre est pris, lui, dans son englument. Et le problème de vivre, c'est que vivre ne peut pas se constituer en finalité éthique, puisqu'on est déjà dedans, on est déjà impliqué, engagé.
On ne peut pas tendre donc vers le vivre.
Et c'est pour ça que j'aurais existé le verbe fort, qui permet de, non pas de résoudre la contradiction, mais de penser sa tension. Exister, c'est donc être immanent existant, restant dans le monde, mais sachant s'en tenir hors. Je crois que c'est propre à la relation tout autant. Dans une relation, dans une rencontre qui devient relation, une rencontre donc qui s'installe, s'instaure en relation, il faut pouvoir faire réémerger du dehors, remettre l'autre à distance. La phrase que je cite de Jean dans l'Évangile, n'est-ce pas, qu'il faut traduire littéralement, et non pas comme elle est traduite habituellement, qui est « Je me retire et viens vers vous ». Voilà, « Je me retire et viens vers vous ». Il y a donc ce retrait qui donne accès. Et je crois que... Alors, vous avez dit comment faire. Je crois qu'il faut des stratégies. C'est plus une question de morale.
C'est une question de stratégie.
De stratégie éthique. De stratégie parce qu'il faut, il y a une difficulté, vous l'avez dit. Il faut donc ruser, biaiser, arriver à ne pas être pris dans cette... à ne pas rester pris dans cette difficulté. Donc, stratégie. Parce qu'il y a une difficulté à dépasser ou à contourner. Et cette stratégie, je crois, c'est comment maintenir du hors dans le dedans sans que cet hors soit un ailleurs, un au-delà, bref, quelque chose qui soit une fuite, un alibi. Donc, maintenir du hors dans le dedans, je crois que c'est l'expérience qu'on fait tous dans une relation, pour que la relation reste rencontre. Rencontre, c'est-à-dire que du dehors advienne, et non pas, disons, un enlisement dans du dedans qui, sans plus de distance entre l'un et l'autre, fait que la relation est perdue.
Vous employez le mot « hors »,« dehors »,« d'ailleurs ». Comment il faut comprendre cet or, cet ailleurs qui est à la fois dedans? C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'altérité radicale? Est-ce que c'est quelque chose que l'on trouve en soi? Est-ce que c'est quelque chose qui se crée? Est-ce que c'est quelque chose qui se pense? Est-ce que c'est quelque chose qui s'atteint? Qu'est-ce que ce hors d'eux? Et est-il atteignable? Car c'est un dehors.
C'est un hors, ce que dit exister, se tenir hors. Et c'est un hors qu'il ne faut pas laisser retomber dans un dedans. Ça, je vois l'exigence.
C'est ça, l'exigence, être sur le fil.
L'exigence, oui, c'est-à-dire, mais se situer au stade de l'émergence, ou de l'essor, ou de l'alerte, tous ces termes disent cela, c'est-à-dire ne pas se laisser de nouveau intégrer, absorber, enliser, bref, ne pas rentrer dans du dedans, enlisement, dans, mais dans la lise. Alors, par rapport à ça, si vous voulez, l'exigence, elle est quoi? C'est que la philosophie l'a dit, n'est-ce pas, l'ailleurs, l'autre, etc. Simplement, il ne faut pas que cet ailleurs, que cet autre, que ce dehors, soit réintégré dans du dedans. Et c'est là que je fais, disons, le procès de la métaphysique. Par différence avec le métaphysique, je défends le métaphysique comme exigence, justement, d'un dehors dans le dedans. Mais ce que je constate, c'est que la métaphysique, comme discours philosophique classique qu'on connaît bien, a relogé ce dehors dans du dedans. Un dedans qui soit le dedans de l'ailleurs, du là-bas platonicien, ou un dedans qui soit le dedans de la vérité de l'être, comme chez Heidegger. Quand Heidegger dit... Extatische Einstein, le se trouver dans extatique, il dit bien cette exigence, le se trouver dans extatique. Hein. Mais il rajoute dans la vérité de l'être, in der Wahrheit des Seins. Et là, donc, il perd le dehors pour le remettre dans du dedans, qui est le dedans, bon, de l'ontologie classique, même s'il est réaménagé. Donc, je crois qu'au fond, vivre cette exigence, vous dites, effectivement, on est sur le fil du rasoir, on est dans cette tension difficile parce qu'il y a une contradiction au départ. Se tenir, rester dans, parce qu'il ne faut pas fuir dans un ailleurs, mais restant dans, se maintenir hors, mais ce dont on fait l'expérience, encore une fois, dans une rencontre, je crois que c'est l'exigence même de la vie. La vie, pour qu'elle ne soit pas une vie enlisée, engluée, comme disait Socrate et ce qu'il refusait, mais une vie justement intense, intense parce qu'elle se maintient dans la difficulté. Et cette difficulté, qui est celle que j'évoquais au premier, et dont l'être, la pensée de l'être s'est débarrassée, cette difficulté de l'ambigu et du singulier.
Mais cette vie, ce vivre que vous décrivez, n'est-il pas invivable? Et j'insiste sur le « un », parce que le négatif est quelque chose que vous développez aussi dans votre ouvrage « Vivre en existant » et aussi dans « Près d'elle ». Ce négatif que vous tentez de maintenir, auquel vous tentez de donner une forme de positivité.
Oui, parce que je crois qu'il y a, si vous voulez, il faut distinguer deux négatifs. Il y a le négatif, qui est effectivement le cœur du positif, celui qui désenlise le positif, c'est-à-dire qui le ouvre une brèche dans sa positivité enlisante. Ce que j'appelle le négatif, négactif. La négation active. Et c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre au verbe résister. Exister, c'est résister. C'est-à-dire, c'est activer ce négatif actif. Et puis, il y a le négatif négatif. Celui qui n'a pas vu Hegel. C'est-à-dire le négatif qui n'est que négatif, c'est-à-dire la poubelle de l'histoire, c'est-à-dire ce qui ne produit rien. Et je pense que le rôle, justement, de l'intellectuel, c'est de distinguer ce négatif moteur, disons de tradition hegelienne, porteur, moteur, bref, ouvrant une brèche dans une positivité qui s'enlise, et puis le négatif négatif dont tu n'as rien à faire. Je crois qu'il faut distinguer les deux. Et effectivement, si je parle de désadhérence, si je parle de résistance, c'est parce que je veux faire apparaître ce négatif qui défait la positivité qui s'endort, ou qui s'enlise, ou qui englue, et qui fait perdre cette exigence du vivre.
Très concrètement, comment les auditeurs, par exemple, pourraient entendre ça ? C'est-à-dire que sans tomber non plus dans des conseils un petit peu de psychologie, un petit peu facile, et tout en maintenant l'exigence philosophique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement maintenir ce négatif ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le négatif ?
Alors d'abord, vous avez raison de le dire, il faut laisser de côté le prêche. Les conseils de vie, en tout cas, c'est pas mon affaire, je sais que ça marche bien dans le commerce des librairies, mais disons, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est conseil, la philosophie ne prêche pas. La philosophie, elle pense. Donc, c'est pas ça. Elle, qu'est-ce qu'elle produit ? Elle élabore la philosophie, donc elle produit des concepts. Alors, mais je crois que tout éditeur en a fait l'expérience. Encore une fois, la vie de couple, c'est ça. C'est qu'il y a une rencontre qui est l'émergence d'un dehors, de l'ailleurs, de l'autre, de l'autre émerge, et puis cette rencontre devenant relation, s'instaurant, s'installant, eh bien, s'enlise. Et donc, il faut faire réémerger du négatif actif, de la distance du retrait, c'est-à-dire quelque chose qui rende l'autre à son lointain, au lieu de l'intégrer dans son monde, dans un dedans qui ne serait plus que dedans. Donc, je crois que toute expérience de couple est celle-là.
Mais n'est-ce pas qu'une stratégie purement intellectuelle ?
Non, c'est une stratégie éthique. Le problème est là, c'est que c'est pour vivre, pour survivre, je dirais, il faut faire ça. Et je crois qu'il n'y a pas d'échappatoire à cela. Il y a une contradiction qui est que qu'est-ce que c'est qu'être en relation avec un autre ? Dès lors qu'il y a relation, l'autre perd son statut d'altérité. Il s'intègre dans la relation. Donc comment maintenir du dehors dans ce dans ? Et je crois que c'est l'exigence même que vit tout couple. Donc c'est pas abstrait, c'est disons le phénoménal le plus élémentaire, le plus originaire de ce que nous vivons tous les jours. Mais il faut le penser. Donc je ne suis pas dans le mode du prêche et du conseil, etc. Le contraire de ça, j'essaie de penser, c'est-à-dire d'élaborer des concepts qui saisissent cette difficulté pour la penser et promouvoir une stratégie, parce qu'il y a difficulté, stratégie éthique.
Sans rester purement intellectuel. Sur France Culture, il est 10h29 et vous écoutez Les Chemins du Vendredi. Et pour évoquer l'actualité philosophique aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir François Julien, philosophe, helléniste et sinologue, pour ses deux ouvrages qui viennent de paraître, Vivre en existant, une nouvelle éthique, c'est paru chez Gallimard, et Près d'elle, présence opaque, présence intime, c'est disponible aux éditions Galilée.
On s'assit enfin, Madame de Rênal à côté de Julien, et Madame Derville près de son ami. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ? Se dit Julien. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui eussent semblé préférables. 9h15 venait de sonner à l'horloge du château sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin, cette main lui resta.
François Julien, c'est un texte magnifique qu'on vient d'entendre, interprété par Michel Vuillermoz. C'est un extrait, bien sûr, du Rouge et du Noir de Stendhal que vous citez dans votre livre « Vivre en existant ». Et on entend que le romancier parvient à mettre la main ou les mots sur un phénomène imperceptible qui est ce que vous appelez le basculement. Et on entend aussi que le romancier parvient à le faire car sa tâche est de saisir le singulier, l'ambigu, comme vous l'avez déjà dit. Comment parvenez-vous, François Julien, à mettre la main sur cette nuance qui est le basculement, ce moment où Julien va saisir la main de Madame de Rênal et où il va se passer quelque chose sans même qu'on s'en rende compte?
Oui, alors, j'essayais de trouver des termes qui ne sont pas des concepts au départ, qui sont des questions familières. Tout le monde a dit un jour ou l'autre, sa vie a basculé. Le terme image, donc enlisement, adhérence, basculement, pour ne pas décoller trop vite de ce qu'est l'expérience. Puisque le grand tort de la philosophie, c'est souvent de se mettre dans une position hégémonique de surplomb, en fait, de superposition, où elle subsume, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle range le divers de l'expérience sous des catégories déjà construites. Donc, partir de termes comme ça, basculement, qui est d'abord une image, et pour dire cette chose si difficile à saisir, parce que c'est le passage de l'un dans l'autre. Là où ça bascule. Alors, la dialectique, en gros, saisit ça, passage dans l'autre. Enfin, Hegel l'a fait. Mais sans saisir ce qui échappe, quel moment, qui n'est plus dans cette logique du basculement, dans son ensemble, il y a un moment précis, un moment où, justement, ça bascule, et où seule l'image le dit. Et là, ce qui bascule, c'est effectivement comment Madame de Rênal, en fait, dont on ne parle pas, parce qu'on ne parle que de Julien, mais c'est l'autre, en fait, c'est dans l'autre que ça se passe. Julien est dans sa stratégie, lui, totalement de conquête. Il découvrira ensuite toute autre chose qui est l'intime. Mais là, il est dans la conquête, et ce qui se passe, c'est donc le basculement chez Madame de Rênal, dont il n'est rien dit, dont on ne sait pas quand il a lieu, qui se manifeste à ce moment-là, puisqu'elle laisse finalement sa main après la première résistance, mais qui est ce moment où finalement tout a basculé, c'est-à-dire on est passé de l'un dans l'autre. Or, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un moment qui est un moment éminemment singulier et ambigu, donc propre au vivre. C'est ambigu parce que c'est l'un et l'autre, à la fois il y a de la résistance et en même temps il y a l'inverse de la résistance, elle se donne, déjà. Et singulier parce que c'est un moment qui échappe au grand renversement dialectique, et quand ça se passe. La question du romancier, chez Stendhal, dans d'autres romans, on le voit bien, c'est comment arriver à situer ce moment-là, ce moment premier du basculement. Parce que ce qu'on constate toujours, c'est du résultatif, c'est quand c'est fait que cela a basculé. Mais comment est ce moment où l'un est en même temps l'autre? Donc le propre de l'ambigu est ce moment aussi singulier qui ne s'intègre pas dans une logique de renversement, comme quand on passe de la différence à l'amour, bon, la logique d'ensemble, on la connaît. Comment ça se passe? Et je crois que c'est le roman, justement, qui essaie de remonter à cela, à ce qui serait cet instant le plus originaire, mais qui n'est jamais celui-là même, dont on peut toujours se demander s'il y a pas un auparavant, plus discret encore, plus secret, où ça s'est passé.
C'est aussi ce qu'on a voulu signifier en entendant le thème du mépris de Jean-Luc Godard, où effectivement, dans ce film, il y a ce moment de basculement où Camille, donc interprétée par Brigitte Bardot, passe de l'amour au mépris, et on ne voit que cette scène où elle déteste, en fait, elle fait part de sa haine envers Michel Piccoli, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et pourtant, c'est bien le propre de cette représentation qu'est le film que de nous avoir mis en présence de ce basculement sans même qu'on le discerne. Mais est-ce que c'est imperceptible? On peut l'approcher en fait par des concepts. On a commencé déjà à parler de la tâche de la philosophie. C'est la tâche du roman, c'est la tâche du cinéma que de représenter. Mais comment la philosophie peut elle-même rendre présent?
Je crois que c'est l'exigence qui est la sienne, parce que la littérature prend en charge ce que la philosophie, de façon classique, a laissé tomber. Donc la littérature, elle, prend en charge l'ambigu et le singulier, c'est même sa vocation, une vie. Et je crois que justement, la tâche qui nous revient aujourd'hui, collaborant avec la littérature, et s'appuyant sur elle, parce que la littérature éclaire, elle n'explique pas, elle ne conçoit pas, mais elle éclaire. Elle éclaire l'ambigu et le singulier. C'est donc, pour la philosophie, d'élaborer des concepts qui puissent, comme cela, partant de termes familiers, mais en déployant la cohérence, arriver à rendre pensable ce vécu. Alors, vous citez Le Mépris de Moravia. Je pense à Moravia, au roman lui-même. Oui. Ou bien que Moravia dit bien, pour cette scène mise après en film, qu'il y a ce moment, mais sans doute il y avait un moment avant. Donc, ce moment où ça se voit est un moment résultatif qui fait donc signe vers un moment plus secret, plus intime, échappant bien sûr à la conscience des sujets, où ça s'est passé, où le basculement effectivement a eu lieu. Donc quel est ce temporel, voyez, qui justement nous situe hors de l'enchaînement de la vie telle qu'on se la représente, et qui est où tout se décide, et en même temps qui est si discret, et qui n'est pas déterminable, parce qu'il est proprement ambigu. C'est ça qui fait qu'il est insaisissable, c'est qu'il est ambigu. Il est tellement singulier et ambigu, ce moment-là du basculement, qu'il nous échappe quand on veut, même, non seulement le penser, mais le représenter.
Est-ce que vous renoncez de votre côté à des termes comme à peut-être des catégories trop rigides, comme l'événement, comme le commencement, la fin, comme vous parlez de moments, vous ne parlez jamais d'événements?
Alors, je crois qu'il y a, dans mon livre, il y a un chapitre sur le début et la fin, justement. Début et fin sont des termes très abstraits. Parce qu'au fond, c'est comme début au dé, n'est-ce pas? On joue. C'est donc, voilà, lever de rideau. La fin, c'est baisser de rideau. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ce qui est amorce, un terme que j'essaie aussi de conceptualiser, amorce. Quelque chose qui est si discret, mais ça mord, ça prend. Un terme qui n'est pas théorique. C'est un terme donc qui vient de le familier, du langage pratique, l'amorce, quand un pêcheur amorce pour faire venir les petits poissons. Donc, essayer de trouver justement un langage conceptuel qui ne décolle pas l'expérience, ou le moins possible. Amorce, à quoi j'opposerais résorption. Donc au fond, notre vie est faite de quoi? De phénomènes qui s'amorcent, et puis qui s'amorcent, qui se développent, ou alors ça avorte. Amorcer, avorter, c'est justement entre les deux que ça se passe, et puis qui ensuite, non pas finissent, non pas s'achèvent la tête, n'est-ce pas, qui se coupe, non, qui se résorbe. Et notre vie, c'est pareil, n'est-ce pas? Naissance et mort sont des termes extrêmement abstraits. Naissance et mort. Je ne sais pas quand je suis né, je n'ai pas conscience de ma naissance.
C'est comme s'ils étaient mis en extériorité par rapport à l'existence.
Ben oui, parce qu'au fond, et ces deux mots, naissance et mort, qui Dieu sait me concernent, en fait, ne me parlent pas. Alors que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un amorçage de vie qui s'est développé, progressivement a fait émerger un sujet qui dit je, bref. Et puis, il y a une résorption qui est déjà le vieillir, et puis qui est ce qu'on appelle la mort, comme événement dont on fait un événement, mais après il y a le corps qui se résorbe encore, etc. Donc on a des phénoménalités qu'il faut suivre dans leur déroulement. Et naissance et mort sont eux-mêmes des termes très abstraits, alors qu'on pourrait les prendre pour les plus concrets. Donc je crois qu'il faut être sensible à essayer de conceptualiser cette phénoménalité-là en décollant le moins possible de l'expérience.
Vous parlez de phénoménalité et non pas de phénoménologie.
Ah oui, l'écart est important. Parce que la phénoménologie, c'est encore du logos. Alors, un logos qui a voulu revenir à l'originaire, aux choses mêmes, comme on dit, le grand vœu de la philosophie, qui est toujours un peu un vœu pieux, revenir aux choses mêmes. Mais je crois que la phénoménologie, je vous consacre un chapitre, ne se rend pas compte des choix qu'elle a fait, des choix ensevelis, des choix enfouis, et qui la maintiennent dans une perspective de philosophie européenne, de Logos, et dont j'essaie de me décaler, puisque je suis aussi sinologue, en prenant appui sur une tradition culturelle extérieure à l'européenne, la chinoise, pour essayer de voir comment distinguer effectivement le phénoménal et puis ce qu'en a fait la phénoménologie, qui au fond reste un phénomène d'être, comme le dit Heidegger, n'est-ce pas ? Et donc, nous, peut-être, a déjà quitté cet originaire qu'elle prétend, disons, vouloir atteindre.
Être n'est manifestement pas un prédicat réel, c'est-à-dire un concept de quelque chose qui puisse s'ajouter au concept d'une chose. C'est simplement la position d'une chose ou de certaines déterminations en soi. Dans l'usage logique, il n'est que la copule d'un jugement. La proposition « Dieu est tout-puissant » contient deux concepts qui ont leurs objets, « Dieu » et « toute-puissance ». Le petit mot « est » n'est point un prédicat de plus, mais simplement ce qui pose le prédicat en relation avec le sujet. Si je prends le sujet « Dieu » avec tous ses prédicats, auxquels appartient également la toute-puissance, et que je dise « Dieu est » ou « Il est un Dieu », je n'ajoute pas un nouveau prédicat au concept de Dieu, mais je pose seulement le sujet en lui-même avec tous ses prédicats et en même temps, assurément, l'objet qui correspond à mon concept. Tous deux doivent contenir exactement la même chose. Et de ce que, par l'expression « il est », je pense l'objet de ce concept comme absolument donné, rien de plus ne peut s'ajouter au concept qui en exprime simplement la possibilité. Quand donc je pense une chose, quelle que soit et si nombreux que soient les prédicats au moyen desquels je la pense, par cela seul que je pose en outre que cette chose existe, je n'ajoute absolument rien à la chose.
S'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière, tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux. Non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvée souvent à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couchée dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assise sur les rives du lac agité, soit ailleurs au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est par lui-même un sentiment précieux, de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. François Julien, on a entendu interpréter par Georges Clès un extrait de La critique de la raison pure de Kant. Puis enfin, j'ai lu un extrait de La cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Deux auteurs, deux textes que vous mettez en vis-à-vis à la fin de votre ouvrage Vivre en existant. Et on peut se demander pourquoi vous faites appel à Kant, finalement, qui est un peu le représentant de la métaphysique. Ce contre quoi vous tentez de... En tout cas, vous êtes en opposition, vous avez fait une distinction entre le métaphysique et la métaphysique, mais Rousseau nous semble plus proche de votre démarche, puisque décrire ce sentiment de l'existence dépouillé de tout, mais néanmoins positif, c'est précisément plus ça qu'on retrouve dans votre ouvrage.
Oui, alors Kant a une position ambiguë, parce qu'à la fois, peut-être appartient-il encore à la métaphysique, par certains côtés, en même temps, il fait la critique de la métaphysique. Donc, il est dans une position décisive à cet égard, et au seuil de notre modernité. Et le texte qui vient d'être lu de La raison pure, en fait, renvoie à un texte précédent, qui est un texte du jeune Kant, qui est un texte très fort, le premier grand texte de Kant, où il montre que, distinguant les deux sens d'être, ça c'est une distinction commune, bien ancienne, entre le sens absolu « je suis » et puis le sens prédicatif « je suis ici », distinguant ces deux sens d'être, montre que le premier sens, celui de « être » au sens d'exister, donc qui n'est pas de la prédication, qui est « être », « je suis »,« to be » ou « not to be », n'est-ce pas ? Comment ce sens-là, en fait, n'est pas un prédicat ? Et pour la question qui lui importe dans ce premier texte, de sa philosophie, concernant les preuves de l'existence de Dieu, c'est que, qu'est-ce qu'on dit classiquement ? On dit que Dieu a toutes les qualités possibles, hein, tous les prédicats positifs. Donc, ne peut pas lui manquer le prédicat d'exister, comme si exister pût être un prédicat.
Or, quelque chose qu'on possède. Kant,
voilà. C'est-à-dire que ce n'est en rien une qualité de plus. Ce n'est pas un prédicat possible, exister. C'est une position absolue, comme il dit.
C'est un donné.
Oui, c'est-à-dire que ça se constate. Ça ne se conçoit pas, ça se constate. Ça ne se conçoit pas, ça ne se déduit pas. Ça n'entre dans aucun raisonnement, exister. C'est ou c'est pas. Ça se constate. Bon. Là, c'est quelque chose de très fort qui fait apparaître contre toute la, ce qui est la preuve ontologique des sens de Dieu qui avait ses, encore présente chez Descartes, de dire non. De penser que Dieu a toutes les qualités, donc aucune ne peut lui manquer. Donc l'existence ne peut pas lui manquer non plus. Donc, par conséquent, Dieu existe, est faux. Donc, c'est, je crois que c'est essentiel, c'est que Kant, en fait, fait apparaître ce qu'a de radical le verbe exister, le sortant de tout ce qui est raisonnement, déduction, pour le faire entrer dans l'expérience même, celle du constat. C'est pour ça que je le mets en rapport avec Rousseau. Parce que Rousseau, au fond, alors, c'est Rousseau de la fin de la vie, non pas le jeune Kant, mais le Rousseau... ces derniers jours, ces dernières années.
C'est un texte de 1782.
Oui, c'est cela. C'est bon, cette fameuse cinquième rêverie. C'est qu'au fond, l'un comme l'autre donne sa force nouvelle au verbe exister. Si j'appelais mon livre en sous-titre Une nouvelle éthique, c'est parce qu'on voit bien que le verbe exister, qui vient de la théologie, exister, c'est quoi au départ ? C'est se tenir hors de quoi ? Hors de Dieu. C'est Dieu nous fait exister en nous envoyant dans le monde. Dieu est, comme dit Leibniz, nous, nous existons parce que nous sommes envoyés hors de Dieu, hors de l'esprit de Dieu pour vivre dans le monde. Nous nous tenons hors de Dieu dans le monde. C'est le sens premier théologique d'exister. Puis ce verbe exister prend un sens. Alors au départ, c'est un moins d'être exister, mais qui se renverse en plus d'être, puisque exister assume la fonction de dire être au sens absolu. Je suis, comme Descartes dans le Cogito, ego sum, ego existo. Et Spinoza est encore dans ce verbe exister. Si je passe par Kant et par Rousseau, c'est pour justement ouvrir le verbe exister à sa modernité. Et en faisant réentendre ce qu'il a de radical et d'absolu, l'absolu qu'évoque Kant, comme l'absolu qu'évoque Rousseau. C'est pas le moment où justement... Alors ce qui m'intéresse chez Rousseau, c'est que ce moment de la rêverie du lac sur le lac de Bienne est un moment très singulier, un moment très ambigu, et en même temps où il y a une sorte de suffisance qui fait que, il dit, n'est-ce pas, qu'on est comme Dieu, on est comme Dieu. Donc on est dans cet absolu de l'être, que dit exister. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans cette rêverie, non seulement il dit qu'exister, c'est donc qu'on peut dans notre vie atteindre cet absolu d'existence, mais qu'exister, c'est l'extase. Et en parlant d'extase à la fin de la rêverie, il reprend ce terme extase, se tenir hors. Donc extase en grec, se tenir hors, comme dit exister en latin, se tenir hors, c'est qu'au fond, c'est en se tenant hors de la clôture du moi dans le monde qu'on peut atteindre cet absolu de l'existence.
Mais là est bien l'ambiguïté entre Kant et Rousseau. D'un côté, chez Kant, l'existence est donnée dans l'être, alors que chez Rousseau, l'existence, ce sentiment d'existence doit se conquérir. Comme vous l'avez dit, Rousseau est à la fin de sa vie. C'est un long parcours dont il a fait part, et il arrive à ce sentiment de l'existence dépouillé de tout au bout d'un certain nombre d'épreuves. Tout n'a pas été donné.
Non, mais je crois que l'écart entre eux, c'est que Rousseau parle du sentiment d'exister, du sentiment d'exister. Donc là, c'est tout Rousseau, c'est cette capacité du sentir qu'il fait apparaître dans la pensée et qu'il est un des premiers à penser. Le texte de Kant renvoie à une question qui est une question de la philosophie, qui est l'épreuve de l'existence de Dieu. Donc, ce que fait apparaître Kant, c'est que exister n'est pas de l'ordre de la prédication, n'est pas de l'ordre du raisonnement, de la déduction, c'est de l'ordre d'un constat. Or, c'est ce que fait Rousseau. Il constate aussi qu'il y a un moment possible où moi, sujet sentant, eh bien, je me sens exister en disant, justement, par une sorte de... je ne suis pas englué dans le vivre. Hein, c'est pas ce que repoussait Socrate, Glycoménos, tout zen, n'est-ce pas, englué, collé dans le vivre. C'est simplement cette capacité momentanée, effectivement. Je ne sais pas si elle est conquise, en tout cas, à laquelle on accède. Ce qui me paraît essentiel, c'est le verbe accéder. Accéder à cette sorte de d'émergence du vivre qui se totalise dans une sorte de sentiment plein, n'est-ce pas, et ne descend pas ni l'ambigu ni le singulier de ce qui est l'existence du sujet. Non, je crois que les deux textes, au fond, sont bien contemporains, mais saisissent la question par et debout. L'angle logique chez Kant et l'angle du sentir chez Rousseau. Mais les deux convergent pour donner un sens nouveau, un sens prometteur, je dirais, un sens à déployer à ce verbe « exister ».
Finalement, on a l'impression qu'on existe pour vivre mieux.
Enfin, je pense que...
Pour jouir exister, mieux, en tout cas, du vivre. Voilà. Rousseau jouit de se laisser porter sur une barque, se jouit des plaisirs de la nature. En fait, il jouit de vivre, après avoir eu le sentiment d'exister, en fait.
Je pense que vivre, quand je dis vivre en existant, on peut vivre sans exister. On est dans le monde, englué dans ses adhérences, et puis on peut vivre autrement. Là, donc, il y a l'alternative, c'est vrai que c'est éthique. Parce qu'on peut vivre sans exister, et puis on peut vivre en existant, c'est-à-dire en promouvant sa vie, en la laissant pas, disons, dans la finitude et l'enlisement du monde. C'est vrai pour la rencontre amoureuse, c'est vrai pour du sujet vis-à-vis de lui-même. Et donc je crois que c'est ça l'alternative éthique. Il y a une stratégie, parce qu'il faut trouver les moyens de ce hors pour se maintenir hors dans ce dans, sans faire de ce hors un alibi. Mais en même temps, c'est éthique parce que c'est l'aspiration, parce que être délaisse le vivre, et vivre ne peut pas se constituer éthiquement. Parce que vivre, on est dedans déjà. On ne peut pas donc en faire une finalité éthique. Donc je crois qu'exister peut dire ce que cette finalité éthique entre être et vivre.
Amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
Finalement, France Gall est très proche de vos travaux, François-Julien, puisque Résiste pour exister, c'est un petit peu ce que vous dites dans l'ouvrage dont on a parlé. Donc merci d'être venu en parler, ça s'appelle Vivre en existant, une nouvelle éthique, c'est disponible chez Gallimard. Et puis on a aussi parlé de Près d'elle, Présence opaque, Présence intime. Là, c'est disponible aux éditions Galilée. Et puis je rappelle que vous êtes l'auteur de L'être ou vivre, lexique euro-chinois de la pensée, disponible aussi chez Gallimard. De L'intime, loin du bruyant amour, au livre de poche. L'archipel des idées de François-Julien, c'est des textes réunis par Nathalie Schnur à la Maison des sciences de l'homme, puis aussi Vivre de paysage où l'impensée de la raison, c'est chez Gallimard. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine des Nouveaux Chemins. Et la semaine prochaine, ce sera sur les traces des philosophes espagnols que nous irons du siècle d'or au XXe siècle, de Baltasar Gracián à Miguel de Unamuno. Et quant à vous, eh bien pour écouter cette émission et toutes celles de cette semaine, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour aussi.